Bien, j'avais prévu d'intervenir donc 3 quarts d'heure et ensuite une demi-heure d'échange, mais je vais raccourcir donc un petit peu mon intervention. Enfin bon, je vais voir, on va voir ensemble. Donc voilà, je m'appelle effectivement Laurent Talbot. Je suis effectivement maître de conférence à Toulouse en sciences de l'éducation, mais antérieurement j'ai eu un parcours d'enseignant, de formateur. J'ai plutôt dans le premier degré, j'étais instituteur, professeur des écoles, maître formateur, et puis j'étais ensuite inspecteur de l'éducation nationale, ce qui m'a amené à travailler avec le second degré dans un second temps. Aujourd'hui, je mène des recherches sur la problématique des pratiques enseignantes, et notamment lorsqu'elles sont confrontées à l'hétérogénéité des élèves. J'essaie de comprendre comment fonctionnent les enseignants en classe, de la maternelle jusqu'à l'université, et j'essaie de repérer des invariants, une grammaire des pratiques d'enseignement, et j'essaie de comprendre comment font les enseignants pour... comment ils s'y prennent pour gérer cette grande hétérogénéité à laquelle ils sont toujours confrontés. Bon, voilà, en gros, la thématique de mes recherches aujourd'hui. Alors, la commande qui m'a été faite est la suivante: travailler par compétence, comment améliorer sa pratique. Alors, j'ai commencé dans un premier temps à barrer sa pratique pour rajouter ses. J'ai eu un échange là avec l'INRP là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, je dis déjà en remarque liminaire que c'est une très bonne question, hein, comment améliorer sa pratique. Et je vous dis tout de suite, je n'en sais rien. Hein, je n'en sais rien. Voilà. Par contre, par contre, je peux vous dire qu'il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Je peux vous dire ce que je dis, moi, lorsque je suis en situation de formateur. Et je vais vous dire ce que je dis lorsque je suis lorsque je discute avec des collègues chercheurs. Et je vais vous dire ce qu'on se dit, quoi. Voilà. Ce qui est un petit peu différent de ce qu'on dit lorsqu'on est en situation de formateur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire la vraie vérité. Voilà. Donc un plan, j'ai essayé, donc on a invité un universitaire, c'est pour qu'il y ait un petit peu de théorie, hein. Donc dans un premier temps, essayer de définir un certain nombre de notions et de concepts, hein, et de repères théoriques, donc vous proposer un certain nombre de repères théoriques autour de ces notions de compétences, de pratiques, etc. Et puis ensuite, essayer de répondre à cette question. Impossible, quoi. Enfin, cette question très difficile, à laquelle on pourrait donner une multitude de réponses, je crois. Enfin, je vous en donnerai quelques-unes, mais qui ne sont pas satisfaisantes. C'est-à-dire que il n'existe pas de bonne méthode, où on est à la recherche de la bonne méthode, on n'a toujours pas trouvé d'enseignement, hein, qui pourrait faire face à toutes les difficultés d'apprentissage de nos élèves. Mais je vais essayer de vous faire comprendre, de vous expliquer pourquoi moi je n'y crois pas, pourquoi moi je pense qu'il n'existe pas, hein, qu'on ne trouvera jamais la bonne méthode. Voilà. Mais on peut réfléchir, on peut donner quand même quelques pistes qui peuvent donner du sens et qui peuvent nous permettre de prendre du recul sur nos pratiques, éventuellement donc de les améliorer. Peut-être. Voilà, je me trompe de... Alors, première définition, les pratiques enseignantes. Je sais comment on pourrait définir les pratiques enseignantes. Ou le terme de pratique. Là, je m'appuie sur un auteur qui s'appelle Albert Bandura, qui est un Canadien qui travaille aux États-Unis et qui dit que toute pratique humaine peuvent, alors, ce n'est pas seulement les pratiques d'enseignement ou les pratiques enseignantes, c'est toutes nos pratiques humaines s'articulent autour de 3 grandes dimensions. Et ces 3 grandes dimensions sont en interrelation. Le contexte, l'environnement dans lequel elle s'opère, travailler en rare, travailler au centre-ville de Lille, travailler dans un petit lycée, travailler dans un collège de 1500 ou de 2000 collégiens, c'est pas la même chose que travailler dans un petit collège de 300 collégiens, etc. Deuxième grande dimension à prendre en compte, c'est l'activité. Hein, de la personne, ici c'est l'enseignant, je me place du côté de l'enseignant, l'activité, c'est-à-dire le comportement. Bandura, qui est un ancien behavioriste, qui est quelqu'un qui a 80 ans à peu près aujourd'hui, qui a commencé à travailler dans les années 70 avec les théories behavioristes, s'est intéressé dans un premier temps au comportement, c'est-à-dire à ce que font véritablement les gens, ce qu'on peut voir. Donc le contexte, ce que font les gens, comportement, behavior en anglais. Et puis, troisième grande dimension, la boîte noire, ce qu'on a dans la tête, les représentations hein, qu'a l'enseignant, son sentiment d'efficacité personnelle, ses connaissances, etc. Donc, trois grandes dimensions. Quand je vais parler de pratique enseignante, je vais parler de ces trois grandes dimensions à chaque fois en interrelation. Ça va, c'est clair ça ? C'est à peu près clair. Je vais vous donner mon modèle théorique de référence, c'est-à-dire que j'ai essayé avec l'équipe toulousaine de modéliser ce qui se passe dans un collège, un lycée, une école maternelle ou élémentaire, une université, une classe, ce qui se passe ici par exemple. Hein. Le système enseignement-apprentissage pour nous est interactif, je vais expliquer ça, est contextualisé et contextualisant. Ce sont des gros mots que je vais essayer d'expliquer avec vous. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il suffisait d'enseigner pour que les gens apprennent. Ici, on était sur un modèle linéaire, programmatique. J'enseigne, donc il apprend. Il y avait simplement une flèche, là, comme ça. Ça, c'est toute l'histoire hein, de la pédagogie, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, était... consciemment ou non, modélisé de cette manière-là. Il suffit d'enseigner pour que les gens apprennent. Et si jamais ils n'apprennent pas, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire à l'école. Ce sont des ânes, ce sont des fainéants, ce sont des débiles. J'utilise des termes qui étaient utilisés au début du XXe siècle. Et il convient de les mettre de côté. On ne va pas se préoccuper de l'échec scolaire ou des difficultés, etc. Hein. Voilà. Ensuite, milieu du XXe, il y a des modèles qui ont montré que le processus était interactif, qu'il y avait des liens entre l'enseignement et l'apprentissage. Hein. Donc c'est cette flèche-là, en retour, hein, que l'enseignant n'était pas souverain dans sa classe, que parfois il fait des choses qu'il n'avait pas pensé faire, du fait des réactions des élèves, des questions qui sont posées ou des comportements qui font qu'il va être amené à expliciter telle ou telle chose qu'il n'avait pas pensé développer. Donc il y a des réactions, il y a des interactions, modèle interactif. La flèche en retour est très importante. Et puis, dans les années 80, après les travaux de la sociologie de l'éducation, par exemple, hein, qui ont montré avec Bourdieu, Passeron, hein, les travaux que vous connaissez, 64-70, qui montrent que, par exemple, le contexte, la famille, est corrélé a une influence importante sur les performances des élèves. Et donc le contexte familial, pour le coup, va influer sur l'apprentissage et éventuellement sur l'enseignement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers de variables contextuelles qui influent sur ce qui se passe dans la classe, sur l'enseignant et sur les élèves. C'est la superficie de la salle, c'est les conditions matérielles, c'est le temps qu'il fait. Les gens qui sont habitués à visiter les maternelles savent, en tout cas, c'est le cas à Toulouse, mais je pense qu'à Lille, c'est la même chose. Lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait soleil, il ne se passe pas la même chose dans les classes maternelles. À Toulouse, on a un vent qui s'appelle le vent d'Otan, qui rend les gens à moitié fous. Pas seulement les enseignants, les élèves aussi. Peut-être les élèves deviennent... Voilà, il y a des choses comme ça qui font que le contexte est variable. Le contexte, le temps qu'il fait, le nombre d'élèves. Hein, il y a des travaux contradictoires dans le champ de l'éducation qui montre que la taille des classes a une influence hein, sur ce qui se passe, etc. Bien. Et puis, contextualisant, donc j'ai expliqué interactif, j'ai expliqué contextualisé, Hein, le contexte joue sur l'enseignement et l'apprentissage, et contextualisant ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans le collège, ce qui se passe au lycée, a une influence sur l'environnement, sur le milieu, sur la société. Hein. Les représentations de ces parents, des parents d'élèves peuvent être changées par rapport à l'école, par rapport au savoir, par rapport à la laïcité, par rapport à des valeurs de la République, par exemple, grâce à leurs enfants qui sont scolarisés dans telle ou telle classe. On sait, j'étais inspecteur dans le Piémont pyrénéen et j'étais amené dans les années 95-2000 à fermer des classes uniques. Et j'ai compris que c'est pas moi, c'était l'IA qui m'obligeait à fermer. Enfin bon, voilà, moi j'étais que le bon. Ouais. Et j'étais amené à voir combien c'était une mesure catastrophique, hein, pour la vie du village, la fermeture de l'école. Ça a entraîné la suppression de la poste quelques années plus tard, de l'épicerie, etc. Les parents ne venaient plus chercher leurs enfants, etc. Et c'est peu à peu la mort lente du village. Voilà une influence, voilà comment ce qui se passe dans l'école peut influer sur l'environnement, le contexte. Donc, le modèle théorique de référence sur lequel je m'appuie, ou sur lequel l'équipe de Toulouse dans laquelle je travaille s'appuie, c'est le modèle interactif contextualisé, contextualisant. C'est clair, ça va, ces gros mots-là, c'est bon. Vous n'hésitez pas à m'interrompre éventuellement si mes propos vous paraissent quelque peu abscons, j'essaierai de clarifier au fur et à mesure. Donc il est difficile de parler de pratique au singulier, c'est pour ça que je veux mettre un S, moi, hein, au titre de... Dans la commande. Il est difficile de parler de pratique au singulier, et j'utiliserai donc à partir de maintenant le terme de pratique avec un gros S, parce que selon le contexte, selon les élèves auxquels j'ai affaire, mes pratiques d'enseignement vont varier. Il existe, et on a pu le montrer, je n'ai pas trop le temps de vous le démontrer ce matin, il existe des variations intra- et inter-individuelles dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Les enseignants, au cours de leur carrière, ne pratiquent pas de la même manière, ne développent pas les mêmes pratiques d'enseignement. Il y a un très bon bouquin d'un monsieur qui s'appelle Huberman, suisse, qui montre que nous avons, que tous les enseignants ont des parcours chaotiques, hein, dans leur carrière, qu'il y a une crise, un milieu de carrière, et puis on s'en sort comme on peut. Hein. On devient inspecteur, on devient chef d'établissement, on devient conseiller, on s'en sort comme on peut. Voilà. Certains continuent, se ressaisissent et continuent et restent enseignants. Bien. Voilà. Donc difficile de parler de la pratique, et je pourrais revenir sur ce point si ça ne vous paraît pas clair. C'est pour ça que les choses se compliquent tout de suite, quoi. Hein. C'est cette histoire du contexte. C'est-à-dire que les enseignants n'enseignent pas toujours de la même manière, parce qu'ils n'ont pas affaire toujours aux mêmes élèves, au même contexte. Et parce que même dans leur tête, si on est d'accord avec le modèle de Bandura, hein, mes pratiques, mon comportement est lié à ce que j'ai dans la tête et est lié au contexte. Et tout ça influe, s'auto-alimente et interagit. Ces trois dimensions s'auto-alimentent et interagissent entre elles. Donc les choses sont un petit peu compliquées. Donc, je me place du côté de l'enseignant. Travailler par compétence, pour moi, donc c'est enseigner par compétence. Je me place du côté de l'enseignant, je vous l'ai dit. Et j'aimerais donner une définition de l'enseignement. Qu'est-ce qu'enseigner? Eh bien, dans cette approche par compétence, qui est quelque part une approche socio-constructiviste, socio-constructiviste, hein, je vais utiliser un gros mot. Vous avez entendu peut-être parler de Piaget pour le constructivisme et de Vygotsky et de Brunner, par exemple, pour le socio-constructivisme. Je pourrais revenir là-dessus. Donc si on pense compétence, on pense donc à l'activité importante de l'élève lorsqu'il apprend, et donc on pense que toutes les connaissances ne peuvent pas se transmettre. Savoir que Charlemagne a été couronné à l'an 800, voilà une connaissance qui peut effectivement se transmettre. On n'a pas besoin de mettre les enfants ou les élèves en situation d'activité pour construire cette compétence ou cette connaissance. Là, il ne s'agit sûrement pas d'une compétence. Enfin, va falloir qu'on se mette d'accord, mais je crois que vous travaillez sur le terme depuis hier. On pourra préciser ça. Moi, je suis connaissance, savoir, compétence, etc. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Ce serait bien qu'on se quitte ce soir en étant d'accord. Bien. Mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Moi, je vous donnerai mes définitions. Je vous dirai comment je m'en sors. Bien. Très vite, déjà, entre connaissance et savoir, la connaissance, c'est ce que je construis. La connaissance, elle est consubstantielle à l'individu. C'est ce que je construis à partir de mes schèmes intérieurs, à mes connaissances intérieures. Et le savoir, ce serait une... Donc la connaissance est consubstantielle à l'individu. Actuellement, vous entendez de l'information, hein, qui est objective, vous m'entendez parler, et vous construisez votre propre connaissance. Hein. Si je faisais une interrogation écrite, là, tout à l'heure, là, tout de suite, là, maintenant, un modèle interactif contextualisant, je suis sûr que je relèverai des copies avec des définitions fort différentes. Pourtant, vous avez entendu les mêmes choses, la même chose. Mais chacun, par rapport à ses connaissances, par rapport à ce qu'il vit, par rapport aux représentations qui se fait de Laurent Talbot, va écrire des choses tout à fait différentes. Bien. Le savoir serait, pour moi, je me réfère à un certain nombre d'auteurs là, quelque chose, une connaissance partagée. Le savoir serait une connaissance partagée par une certaine communauté, scientifique ou non. On enseigne en France des savoirs. On enseigne des savoirs qui sont partagés, qui sont admis par la communauté française. On enseigne aujourd'hui des savoirs qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on enseignait il y a quelques années, hein, ou il y a quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années. Bien. Donc, mais il y a des connaissances, il y a des... Alors, les compétences, je vais les définir tout à l'heure. Il y a des compétences... Les compétences, on ne peut pas les transmettre. Parce qu'il y a un élément essentiel dans les compétences, ça vous a peut-être été dit hier. Il y a une dimension essentielle sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est la dimension de l'activité. Il y a l'idée d'action, d'activité. Savoir lire... Lire, c'est une compétence, c'est pas un savoir, c'est pas une connaissance, on est d'accord ? Hein ? Bien. Donc, apprendre, enseigner la lecture, ça ne peut pas se transmettre. Il va falloir que je mette en place un certain nombre de conditions pour amener mes élèves à apprendre à lire. Tout le monde me suit là ? Donc, deuxième partie de ma définition, enseigner, c'est mettre en place des conditions qui sont susceptibles, qui devraient permettre mes élèves à construire des compétences. Les compétences, elles se construisent. Elles ne se transmettent pas. Elles ne s'avalent pas. Elles se... Hein? C'est pas du... Voilà. Et les compétences, elles ne peuvent être construites que par les élèves, eux-mêmes, et de manière individuelle. C'est là où tout se complique. Et c'est là où il faut bien comprendre que enseigner et apprendre sont bien deux processus différents. Parfois confondus. J'entends souvent des professeurs des écoles dire « je lui ai appris à lire ». Non, je ne lui ai pas appris à lire, c'est l'élève, hein, lui-même, tout seul, qui apprend à lire. Par contre, je lui ai enseigné la lecture, j'ai mis en place un certain nombre de conditions relationnelles, pédagogiques, didactiques, temporelles, matérielles, cognitives, qui sont susceptibles de permettre l'apprentissage. J'ai défini avec vous connaissance et savoir. Je vais essayer de définir avec vous compétences. J'anime des stages liaison CME2-6e. J'ai animé des formations sur le socle commun, mais au début c'était compliqué, hein, parce que nos textes ils sont formidables là, hein, les textes, nos textes de référence, mais en aucun cas j'ai vu la définition claire, moi, de compétences. Vous les avez vus où, dans les, dans le socle et dans le référentiel de compétences là de 2007 concernant les professeurs, vous les définis, oui, que j'ai pas lu, mal lu ou trop vite lu. C'est-à-dire que il me semble que les textes d'aujourd'hui, le socle commun, c'est quand? C'est 2006. Au début, c'était pas clair pour moi, en tout cas. Et maintenant, ça commence à s'éclaircir. Et ça s'éclaircit très bien grâce à ces trois termes qui décomposent maintenant les compétences dans les textes que je lis, moi, hein, depuis maintenant un an. C'est-à-dire que pour les textes officiels français, notamment le référentiel de 2007, décompose les compétences en trois grandes dimensions. Une compétence, c'est une connaissance, bon, d'accord, telle que définie tout à l'heure, hein, mais c'est aussi une capacité. Alors, capacité, si je comprends bien les textes français, c'est plutôt des savoirs faire, c'est-à-dire on est dans l'activité, là, hein, on est plutôt dans l'action, le comportement, ça va? Et puis, ce sont aussi des attitudes. Et là, on serait plutôt dans des savoir-être. Donc, dans les textes officiels qui sont à notre disposition, une compétence, c'est des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, vous avez écouté Vincent Carrette hier, qui vous a dit sûrement, qui vous a dit que les compétences, c'est des aptitudes à utiliser ce qui a été appris dans de nouvelles circonstances. C'est-à-dire, c'est une compétence pour Carrette que vous avez entendue hier, c'est une aptitude de recontextualiser un apprentissage. Pour Sabine, Bernard Rey, etc., pour la même équipe, hein, c'est une capacité à accomplir une tâche ou un ensemble de tâches. Bien. Et pour nous, équipe toulousaine, pour moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus avec Marc Bru, qui est actuellement directeur de l'UFM Midi-Pyrénées. Eh bien, une compétence peut se définir à partir de cinq grandes dimensions, ou en tout cas, dans tous les bouquins, c'est un mot valise, hein, compétence, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de gens ont écrit sur la notion, et il convient de se mettre d'accord sur le terme, et c'est pas facile, parce que des tas de gens donnent des tas de définitions différentes. Donc moi, en lisant toutes les définitions que j'ai pu lire depuis, qui ont été données depuis une grosse dizaine d'années, eh bien, je vois cinq grandes dimensions dans les différentes définitions. Première dimension, la compétence est délimitée. Bernard Rey, par exemple, nous rappelle dans son bouquin très important de 1996 sur les compétences transversales, qu'il remet en question, je crois que c'est le titre du bouquin, hein, nous rappelle que le terme de compétence nous vient du droit, hein, je suis absolument incompétent en droit, mais on est compétent dans telle ou telle juridiction ou dans tel ou tel champ, si j'ai bien compris. Et le terme de compétence vient du droit et nous dit qu'on ne peut pas être compétent en tout. La compétence est délimitée. On est compétent en droit civil, en droit des affaires familiales, en droit public, en droit privé, etc. Deuxième idée, la compétence s'accomplit dans l'action. Et ça, je crois que c'est le terme, c'est l'idée essentielle. Hein. C'est ce qui différencie la compétence d'un savoir, d'une connaissance, etc. C'est l'idée d'action qui est psychomotrice dans un premier temps, plus on est jeune, et qui peut être plutôt plus conceptuelle, au fur et à mesure qu'on avance dans l'apprentissage. La compétence et connaissance, savoir, etc., je le disais, alors capacité, attitude, connaissance, c'est ce que disent les textes français. L'idée d'efficacité, la compétence permet d'être efficace, Et la compétence est contextualisée, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose de très important. On peut être un enseignant compétent en rare et être très mauvais au lycée Louis-le-Grand. Et puis, c'est souvent l'inverse qui se passe. On peut être, en tout cas à Toulouse, ou dans l'Académie de Toulouse, on peut être un excellent enseignant au centre-ville de Toulouse, à Fermat, et avoir des difficultés au Mirail, par exemple, dans les quatre collèges du Mirail. Bien. Voilà. Donc, moi, je définis compétence à travers ces cinq grandes dimensions. Alors, définition enseignée par compétence, je vous renvoie à ce qu'a dit Sophie Morlet hier, mais je viens d'apprendre qu'elle n'était pas là. Et je vous renvoie, en tout cas, à ce que vous a dit Vincent Carrette, parce que eux, Vincent a travaillé me semble-t-il, j'ai pas pu être là hier, je le regrette fortement, sur ça, sur le pôle de l'enseignant, etc. Mais on pourra, si je dis des choses qui ne sont pas totalement en accord avec ce que vous a dit Vincent Carrette, vous me le diriez, et puis j'essaierai de m'expliquer éventuellement. Comment ?
On n'oserait pas.
Ah oui, je sais, oui. Surtout, il n'est pas là, donc je pourrais en profiter, ce serait plus facile. Comme il n'est pas là, ce sera plus facile pour moi. Deuxième grande partie de mon exposé, il me reste un peu de temps. Comment améliorer ces pratiques d'enseignement ? Alors, je vous ai dit que comment, je ne sais pas trop, mais est-ce que c'est possible ? Oui, je sais que c'est possible. On peut améliorer ces pratiques. On peut être plus efficace. Ça, on le sait. Parce que enseigner est une pratique professionnelle. Parce qu'enseigner, ça s'apprend, ce n'est pas un don, contrairement à ce qu'on nous a dit durant une partie du XXe siècle. Ce n'est pas un art, ce n'est pas une problématique liée uniquement au charisme du professeur. Je crois que la communauté scientifique aujourd'hui est d'accord sur le fait que enseigner, ça s'apprend. Et il y a toute une réflexion qui est menée actuellement autour des UFM, vous savez, qui ont été intégrés aux universités. Vous savez que nous sommes en train de monter des masters pour changer complètement la formation des enseignants qui va se faire durant 5 années après le bac. Et puis, nous sommes en train de changer les concours aussi de recrutement, les CAPES, le CRPE, tout ça est en train de changer. Eh bien, tout ça, ça tourne quand même autour de l'idée que, eh bien, enseigner, ça s'apprend. Ça s'apprend. Bien. C'est possible aussi d'améliorer ces pratiques parce qu'on sait, et les sciences de l'éducation et un certain nombre de disciplines, en Amérique du Nord et en France, à partir des années 80, ont montré qu'il existe un effet maître que je vais définir tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les pratiques d'enseignement ne se valent pas. Il y a des maîtres qui font progresser leur classe, il y a des professeurs qui ne les font pas progresser, figurez-vous. Donc, mais ça, on le sait, on le sait de manière intuitive, mais on a pu le montrer, et les travaux de Sophie Morlet, et puis de l'IREDU, notamment en France, depuis une vingtaine d'années, montrent ça, de manière totalement objective. Bien. On maîtrise un certain nombre de variables, notamment des variables sociologiques, CSP des parents, niveau des élèves, etc., on les met avec tel prof ou on les met avec tel autre prof et on les regarde en T2, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire, on s'aperçoit que ces mêmes enfants progressent avec certains profs et ne progressent pas avec d'autres profs. Bon, ça s'appelle l'effet maître. Et puis l'idée dans laquelle je me place, c'est que comme pour les élèves ou les étudiants dont j'ai la responsabilité à l'université, eh bien, je fais le postulat de l'éducabilité cognitive des enseignants. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que eh bien, les représentations, les connaissances des enseignants peuvent se modifier et on peut apprendre à enseigner tout au long de sa vie professionnelle. Et la vie professionnelle des enseignants augmente, s'allonge. Elle est de 40 ans aujourd'hui, 41 ans si je crois, me semble-t-il, dans un an ou deux, et puis 42 ans dans 4 ou 5 ans. Actuellement, je m'occupe du recrutement des professeurs des écoles à Toulouse, et bien on les recrute à Toulouse, et je crois que c'est la moyenne nationale, à 26 ans en moyenne. Donc 26 plus 42, ça va faire 68. 68 à la maternelle. Chanter, le facteur n'est pas passé, pipioli, là, tout ça, là, avec des enfants de 3 ans, ça va, à 68 ans, ça va, bon, ça va être difficile, Donc, alors, 26 ans aujourd'hui, CRPE, professeur des écoles au niveau LE3, hein, Bac plus 3. Dans un an, en 2010, c'est Bac plus 5, donc on va décaler encore. Hein. Ce sera 28 ans, moyenne 28, 29. Donc imaginez, 29 plus 42 égale... Alors là, on va avoir des problèmes de Parkinson, tout ça, hein, dans 72 ans. Bien. Bien. Non, mais vous rigolez, mais... Enfin, je fais un peu l'âne, là, mais ça va poser des problèmes énormes. Hein. Ça va poser des problèmes énormes. Qu'est-ce que l'effet maître ? On est sûr qu'on peut améliorer ces pratiques parce qu'il existe un effet maître. Qu'est-ce que l'effet maître ? Eh bien, les travaux américains et les travaux français, travaux américains à partir des années 70 et français à partir des années 80-84, nous disent que c'est la capacité à élever le niveau moyen d'une classe. Et on sait que cette capacité est liée à l'équité. La possibilité d'égaliser le niveau des élèves. C'est-à-dire que dans certaines classes, le niveau moyen de la classe augmente, et dans ces classes-là, on s'aperçoit que l'écart entre les bons élèves et les élèves faibles n'augmente pas, mais au contraire, se réduit. Ça ne veut pas dire que les maîtres efficaces freinent, brident les bons élèves, hein, qui continuent à progresser comme dans les classes où il y a moins d'efficacité. Mais ça veut dire que dans ces classes-là, les élèves moyens et notamment moyens faibles progressent beaucoup. Et les écarts entre les moyens faibles et les forts diminuent. Voilà. Et on note donc une corrélation importante entre l'efficacité de ces classes-là et le fait que les écarts diminuent, que ces classes-là sont plus équitables. Donc ça signifie que les classes où on progresse le plus sont avant tout les classes où les élèves faibles, ou je dirais maintenant plutôt les élèves moyens faibles, progressent le plus. Alors ça, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant et c'est primordial. Et donc, la prise en compte des élèves en difficulté dans la classe est quelque chose d'essentiel. Alors, comment expliquer l'effet maître ? L'idée, c'est que font ces enseignants efficaces et équitables ? C'est bien ça l'enjeu. Une fois que je saurai ce que font ces enseignants efficaces et équitables, je pourrai répondre à la question comment améliorer mes pratiques ? Il faut que je copie les enseignants efficaces et équitables, ceux qui ont un effet maître positif. Alors là, si je suis enseignant, si je suis inspecteur de l'éducation nationale, si je participe au jury de recrutement du CRPE ou au CAPES ou à l'agrégation, eh bien je me réfère au texte, au référentiel de compétences qui est sorti en 2007, hein, que vous connaissez tous, que je ne vais pas développer devant vous, avec les 10 compétences. Aujourd'hui, il me semble, nombre d'inspecteurs, aujourd'hui en tout cas dans le premier degré, mes collègues IUN commencent à construire leur grille d'inspection à partir de ces référentiels-là. Je sais que le jury de Toulouse sur le CRPE, nous à l'oral, à la première épreuve d'oral, hein, à l'entretien, on demande aux collègues de construire des grilles à partir de ces compétences-là qui doivent être maîtrisées normalement à l'issue de la formation initiale, à la fin de la formation UFM. Bien. Donc la réponse, comment améliorer ces pratiques lorsque je suis enseignant, maître formateur, formateur dans le secondaire, inspecteur, IUN, IAIPR, c'est ça. Comment améliorer ces pratiques ? Eh bien, il faut agir de façon éthique et responsable. Il faut maîtriser la langue française, il faut maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale. Il faut s'améliorer sur tout ça. Bien. Lorsqu'on est chercheur, eh bien là, on est moins malin. Parce qu'on a... et là, il y a un dilemme, quoi. C'est-à-dire que vous, lorsqu'on est formateur, lorsqu'on est évaluateur, lorsqu'on est inspecteur, etc., on a besoin de certitudes. On ne peut pas aller sur le terrain, on ne peut pas aller dans les classes, on ne peut pas aller dans les établissements sans certitudes. Et le référentiel de compétences, ce texte de 2007, nous donne cette certitude et nous donne cette légitimité. Et je crois qu'il est plutôt bien fait, ce référentiel. Enfin, il me semble, en tout cas. Il a en tout cas le mérite de montrer que les compétences des enseignants ne sont pas disparates, de la maternelle jusqu'à l'université. C'est-à-dire que c'est un référentiel qui est valable à l'école maternelle, élémentaire, collège et lycée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Au niveau de la recherche, nos certitudes sont moindres. Parce que, à cause de cette histoire de contexte que je vous disais tout à l'heure. Enseigner et apprendre, ça fonctionne dans un contexte, et ce bon sens de contexte change sans arrêt. Vous allez dans une classe, vous allez dans l'autre classe, vous inspectez de 8h30 à 10h30, vous y allez à la récré, vous allez à 11h15 dans l'autre classe, le contexte est tout à fait différent. Donc, c'est plus compliqué. Mais il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur cette histoire d'éphémètre. Et puis, je vous cite donc des auteurs français ou américains, Vincent, Carette, que vous avez entendu hier, là, a écrit un papier intéressant là, dans la revue française de pédagogie sur l'éphémètre. Et quand je lis ces travaux-là, moi, il me semble qu'il y a, 6 grandes tendances qui se dégagent. Il me semble de se dégager. Qui pourraient expliquer l'éphémètre. Tout le monde me suit, là? Bien. La seule difficulté de ces travaux-là, c'est qu'ils sont souvent faits à partir du discours des enseignants. C'est-à-dire, on mesure les progrès des élèves entre T1 et T2, début de l'année scolaire, fin de l'année scolaire. Là, les travaux de l'IREDU, de Morlaix, de Sophie Morlaix, etc., de Durebella, de Menga, ces initiateurs dans les années 80, là-dessus, sont très carrés, très puissants. Ils ont de grosses compétences en stats, etc. Donc on est sûr qu'on peut mesurer les progrès des élèves sur tel ou tel élément, et c'est là où il y a débat. Sens des compétences, sens des objectifs d'enseignement bien maîtrisés, sens des micro-tâches, c'est bon. Alors là, c'est un peu délicat. Mais on sait, on maîtrise bien ces progrès-là, et ensuite, pour expliquer ces progrès-là, on va voir du côté de l'enseignant et généralement, on l'interroge, on l'interview. Et c'est là où il y a peut-être discussion là aussi, où la recherche a des progrès à faire. Parce que entre le dire et le faire, il y a toujours un écart. Et donc, à Toulouse, on essaie, nous, plutôt, de ne pas s'attacher uniquement, on le prend en compte, le discours des enseignants, de ne pas s'attacher uniquement au discours des enseignants, mais on essaie d'aller observer in situ, observer en classe. Et ça nous crée des difficultés, bien entendu, dont je vous parlerai, il me reste que 5 minutes, assez rapidement. Mais, alors, 6 grandes tendances, si je lis les travaux sur l'éphémètre. 1, ils ont des... au niveau des pratiques, je vous rappelle, les pratiques, c'est 3 choses, 3 dimensions. Ce qu'on a dans la tête, ce qu'on fait, et tout ça, c'est lié au contexte. Alors, les maîtres efficaces, ils ont généralement dans leur discours des représentations, moi je dis... J'utilise mes termes là, des représentations plutôt positives. Ils font plutôt le postulat de l'éducabilité cognitive. C'est-à-dire qu'ils sont loin des thèses innéistes ou fixistes de l'intelligence. Ils font une grande confiance dans les capacités, dans les possibilités de réussir de leurs élèves. C'est-à-dire que même pour les élèves faibles, ils pensent qu'ils peuvent progresser dans tel ou tel domaine. Ils se montrent enthousiastes, ils montrent de grandes espérances dans la réussite de leurs élèves. Au niveau de la deuxième grande dimension, c'est au niveau de la gestion didactique. Alors didactique, pour moi, pour aller très vite, c'est tout ce qui est lié au contenu d'enseignement, à la tâche. Ce sont des enseignants qui donnent priorité aux compétences de base. Ce sont des enseignants qui font en sorte qu'il y ait un temps important aux apprentissages qui soit réservé. Quand vous allez dans une classe au collège, la séquence dure au mieux 50 minutes, et bien vous apercevez qu'il y a des temps d'apprentissage fort disparates d'une classe à l'autre. Nous, on a montré avec des travaux toulousains qu'au CE2, par exemple, le temps d'enseignement et d'apprentissage du français peut varier de 1 à 4. C'est-à-dire que ce sont des travaux qui datent des années 95, qui sont un petit peu vieux maintenant. On est allé observer 30 classes pendant 15 jours de CE2. On fait une moyenne du temps d'apprentissage du français. À l'époque, c'était, je crois, 6 heures ou 8 heures par semaine. Donc, il y a des professeurs des écoles qui faisaient, ou des instituteurs qui faisaient en sorte que les enfants faisaient, alors 6 heures, ou j'ai oublié, hein, 6 heures ou 7 heures de français, mais ça pouvait aller de 2 heures par semaine de 1 à 4. Alors, de 4 heures par semaine à 16 heures par semaine, selon les classes. Bien. Donc, temps réservé à l'apprentissage, continuité dans la gestion didactique. Ce sont des enseignants souvent qui travaillent par projet, qui savent très bien resituer la séquence par rapport à un projet plus large. Ce sont des tâches d'une activité scolaire en relation avec le niveau des élèves. Souvent, il y a une bonne gestion des zones proximales de développement. Troisième grande idée qui est liée à la précédente, c'est que ce sont des enseignants qui font de l'évaluation formative, c'est-à-dire que à tout moment, ils savent à peu près où en sont leurs élèves, ils réagissent immédiatement aux questions, ils font un suivi précis des élèves, ils n'attendent pas le mois de décembre pour s'apercevoir que leurs élèves, qu'il n'y en a aucun qui a démarré en lecture. Hein, parce que moi, on voit ça, par exemple, hein, des professeurs des écoles qui enseignent, et puis tout d'un coup, ils font une évaluation sommative au mois de décembre, ils se disent, oh, bon sang, sur 24 élèves, j'en ai que deux qui ont compris la correspondance phonème-graphème, avec le phonème O. Bon, mais ça, ce sont des enseignants qui savent généralement très bien où en sont leurs élèves. Quatrième idée, c'est la gestion démocratique. Une gestion pédagogique démocratique au sens de Lewin, c'est-à-dire que la règle dans la classe est discutée entre les élèves, avec l'enseignant, la règle au sens général, hein, la vie de la classe, le rapport à savoir, etc. C'est discuté. Mais une fois que c'est... On n'y revient pas sans arrêt. C'est-à-dire que c'est une gestion démocratique, mais ce n'est pas une gestion laissée-faire. Hein. On y revient... Une fois qu'on a posé la règle, une fois qu'elle est discutée, explicitée, de fonctionnement, la règle de fonctionnement, eh bien le maître, le professeur, se fait le garant du respect de cette règle. Bien. Et il y a des rites dans ces classes-là, souvent, qui s'instituent, enfin, qui se mettent en place. Et les élèves, ils rentrent dans ces classes-là, ils savent ce qu'ils ont à faire très vite. On ne passe pas demi-heure à faire de la régulation, à ouvrir tel ou tel cahier, à ouvrir tel ou tel bouquin. On sait ce qu'on a à faire, les uns et les autres. Quatrième idée. Donc c'est une pas mal de rigueur, hein, c'est ce que je vous disais, c'est une gestion efficace du temps d'enseignement, ça reprend un petit peu, je reprends dans cette cinquième idée, l'efficacité en termes de planification et de clarté et de rigueur dans la gestion, en termes de projet aussi. Et puis la sixième idée, c'est la variation. Ce sont des enseignants qui manifestement ne se confortent pas dans telle ou telle méthode ou dans telle ou telle approche. Ils n'hésitent pas à varier. Ils ont bien compris que les élèves varient. Il y a une grosse variation dans l'apprentissage des élèves. Tous nos élèves n'apprennent pas de la même manière. Eh bien, eux, pour faire face à ces exigences hétérogènes. Pour faire face à ces compétences hétérogènes, hein, des apprenants, eh bien, ils vont proposer des chemins différents d'apprentissage, dans le même temps. C'est ce qui est difficile, sûrement, hein, à faire. Bien, ça, c'est le discours, souvent, des enseignants efficaces. Bon, ça nous donne quelques pistes. Nous, à Toulouse, je vous ai dit, une des particularités, je terminerai là-dessus, mon équipe de recherche s'appelle Groupe des pratiques enseignantes et je travaille au sein du Centre de recherche en éducation, information et d'insertion de Toulouse, GPE Créfité. Eh bien, lorsqu'on va observer dans les classes, on filme avec deux caméras, une caméra qui suit le prof, une caméra qui suit l'ensemble de la classe, gros plan, hein, plan large et gros plan, voilà. On enregistre et ensuite on dépouille. Pour une heure de classe, on a à peu près entre 10 et 12 heures de boulot ensuite, hein, pour repérer ce que fait l'enseignant sur telle ou telle variable, etc. Nous en sommes, on voit qu'il y a 4 grandes dimensions qui ont l'air d'avoir une importance énorme sur les apprentissages des élèves, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, et qui différencient les enseignants entre eux. C'est un la tâche. Qu'est-ce qui est donné à faire aux élèves? C'est un lien avec le temps d'apprentissage. Et puis on a un collègue là qui s'appelle Jean-Jacques Maurice qui regarde la DPA, c'est-à-dire la distance à la performance attendue. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais le terme est compliqué. En gros, on filme une séquence d'enseignement, on essaie de décrypter ce que voulait, on interroge le maître après, le professeur, qu'est-ce qu'il voulait faire en sorte qu'il soit appris par les élèves, hein, quels étaient ses objectifs d'enseignement, et puis on revient dans la classe de jour après et on interroge les élèves, on leur fait faire une interro sur la notion qui devait être enseignée le jour où on a filmé. Tout le monde me suit? Et on recueille les performances des élèves sur cette notion-là. Ça va? Et on repère une distance entre les objectifs de l'enseignant et la performance de l'élève. Il y a des classes où cette distance est très petite, de manière générale, les élèves ont appris, ça veut dire deux jours après, on fait l'hypothèse que s'ils savent toujours faire, c'est qu'ils ont appris. Et puis il y a des classes où cette distance est importante, c'est-à-dire que les élèves n'ont manifestement pas appris. Hein, avec, bon, voilà. Ce qui est très important aussi, nous semble-t-il, c'est les interactions verbales, ou plutôt l'action verbale de l'enseignant. On s'aperçoit, et ça c'est plutôt mes travaux à moi, on s'aperçoit que dans des classes, d'abord on s'aperçoit, on comprend mieux quand on compte le nombre de fois que l'enseignant prend la parole. Moi je compte en une heure combien de fois l'enseignant prend la parole. Je compte les actions verbales de l'enseignant, à l'élémentaire et au collège essentiellement. Hein, je fais mes travaux à l'élémentaire et au collège. Une action verbale pour moi c'est, là je suis en train de parler, je compte un, je m'arrête, si je m'arrête plus de 2 secondes, 1, 2, je reprends la parole, je compte 2. Ou si vous me posez une question, si les élèves posent une question au professeur, il reprend la parole, je compte 2. Tout le monde me suit, c'est ça, une action verbale, telle que je la définis. Bien. Eh bien, les enseignants, en moyenne, ils font du 500 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils développent 500 actions verbales en moyenne par heure. C'est énorme. On comprend mieux pourquoi c'est un métier difficile, hein, l'enseignement. 500 à l'heure, bien. Heureusement qu'il n'y a pas de radar. Bien. Du 500 à l'heure, alors là, il y a bien sûr des différences hein, entre les profs, et puis il y a une variation interprof aussi, intra, bon, etc. D'ailleurs, on parle un peu plus à l'élémentaire qu'au collège. Et puis, on individualise aussi beaucoup plus à l'élémentaire qu'au collège. Il y a des profs à l'élémentaire au collège qui individualisent à 30% et d'autres qui individualisent à 70%. C'est-à-dire que je regarde à qui s'adresse l'action verbale. Lorsque le prof, là, mon action verbale s'adresse à tout le monde ici. Donc je compte une action verbale collective. Collective, c'est 2 élèves ou plus. Lorsqu'elle s'adresse à un seul élève, je comptabilise. Et j'essaie et je repère à quel élève est son statut dans la classe. Bon, moyen, faible. Voilà mes travaux. Et donc, il y a des professeurs qui individualisent à 30%, c'est-à-dire 30% des 500 actions verbales sont dirigées à un seul élève. Et puis, il y a des mêmes profs, pas les mêmes profs, hein, il y a d'autres profs, parfois le même prof, selon le contexte, qui individualisent à 70%. C'est-à-dire 70% des 500 actions verbales sont dirigées à un seul élève. Donc là, il y a des disparités énormes. 30, ça va de 30 à 70. Bien. Ce qu'on regarde également, c'est à qui s'adressent ces actions verbales. Et le statut des élèves, faible, moyen, fort. À l'élémentaire, on a tendance à s'adresser aux élèves faibles. Et au collège, on a tendance à s'adresser, lorsqu'on individualise, aux élèves forts. Pourquoi? Alors là, je vous pose la question, je me la pose aussi, les contraintes ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Le prof en 50 minutes, il faut qu'il fasse avancer la classe. Il y a des contraintes didactiques différentes. Il y a aussi peut-être des formations différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir le CRPE, il ne faut pas avoir tout à fait les mêmes compétences en pédagogie, en connaissances psychopédagogiques que pour avoir le CAPES. Moi, je fais passer le CRPE, je sais exactement ce qu'il faut avoir comme compétence. Je ne fais pas passer le CAPES, mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui font passer le CAPES, vous m'expliquerez. Mais je ne pense pas qu'on demande aux profs de maths, aux profs de SVT, puisque j'entendais parler de SVT tout à l'heure, des compétences énormes sur les théories de l'apprentissage, hein, etc. Bien. Zéro. Zéro. Bon, voilà, au moins les choses sont claires. Et puis à l'UFM, ensuite, en formation, je suis pas sûr qu'on développe beaucoup pour le secondaire. Zéro aussi, les choses sont claires. Je vois qu'à Lille, c'est la même chose qu'à Toulouse. Bien. Le troisième grande idée, c'est la gestion, je dépasse un peu, je vais me faire gronder là, ça. La gestion du temps d'apprentissage, j'en parlais tout à l'heure, ça va de 1 à 4 au CE2 en français, de 1 à 3 en mathématiques. Bon, là, il y a un problème là, hein. Enfin, ça organise, hein, ce temps d'apprentissage, en gros, c'est lié avec la tâche. L'apprentissage et la tâche, c'est lié. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que les professeurs, organisent leur pratique autour de l'occupation des élèves. Souci, c'est de faire en sorte que les élèves soient en activité. Et c'est lié à la gestion du temps. C'est-à-dire, les professeurs, comme moi actuellement, leur premier souci, c'est de survivre. C'est-à-dire que j'ai un temps imparti. J'ai 50 minutes, là j'avais 3 quarts d'heure, là je suis un mauvais professeur, puisque je dépasse complètement. Oui, mais vous m'avez mangé un quart d'heure quand même. Hein, donc. Le souci du professeur, c'est de gérer le temps et d'occuper les élèves. Pendant 50 minutes, il veut que ses élèves soient occupés, que ça dure 50 minutes. Je force un peu le trait. Ça, c'est son premier objectif. Et puis, on s'aperçoit que certains ont pour objectif en plus que les élèves apprennent durant ce temps-là. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, voilà. Bien. Et sûrement que les maîtres efficaces, ce sont les maîtres qui ne se contentent pas d'occuper leurs élèves pendant 50 minutes. Ce sont les profs qui ont une exigence supplémentaire. Et il est fort probable que lorsque je débute, lorsque je sors de l'UFM, mon objectif, c'est simplement tenir 50 minutes et de ne pas avoir le cirque dans la classe. C'est-à-dire de faire en sorte que mes élèves travaillent, soient mignons et sages comme vous l'êtes là. Parfait, super. Mais peut-être que il est fort probable que les maîtres efficaces, ce sont des professeurs qui passent à une étape supérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, 50 minutes et avoir le calme. Il faut qu'il y ait en plus il y ait de l'apprentissage. Et puis, quatrième élément, c'est l'évaluation, et notamment l'évaluation formative. On est très fort, lorsqu'on est professeur généralement, pour évaluer sommativement à la fin. Ça, on a été formé comme ça, on en fait depuis tout petit. On commence à comprendre qu'au niveau diagnostic, on sait faire aussi, hein, repérer les représentations, etc., pour démarrer le cours. Mais là où les pratiques diffèrent, et où les professeurs s'organisent de manière différente, etc., c'est au niveau du suivi des élèves, durant l'apprentissage, hein, l'évaluation formative. C'est-à-dire comment on s'y prend pour faire en sorte que 30 élèves, 28 élèves, 35 élèves fonctionnent, apprennent durant ces 50 minutes, alors qu'ils ont un niveau ils ont un niveau très disparate. Et ce niveau au collège se multiplie de façon exponentielle. Vous savez qu'un certain nombre de travaux ont montré en sciences de l'éducation que les écarts à l'entrée du collège, les écarts repérés à l'entrée du collège aux évaluations 6e sont multipliés par 2 à la fin de la 5e. C'est-à-dire les collèges entre la 6e et la 5e multiplient par 2 les écarts entre les faibles et les bons qui ont été produits, entre guillemets, par l'école maternelle et élémentaire. C'est-à-dire que le collège en 2 ans multiplie par 2 ce qui a été créé, les écarts créés en 7 ans. En gros, hein, de la moyenne section jusqu'au CME2. Mais ce n'est pas la faute, que je me fasse bien comprendre, là. Je ne jette pas la pierre aux professeurs de collège. Hein. C'est parce que... Alors là, il y a des travaux là plutôt dans le champ de la psychologie cognitive. Hein. Je pense aux travaux faits par exemple, Alain Liori, hein, à Nantes, qui est un psychologue qui travaille sur la mémoire, qui montre que c'est des milliers de mots qui sont appris par certains élèves entre la 6e et la 5e, alors que d'autres stagnent. Hein. Et on sait très bien que la maîtrise, le sens, le vocabulaire, a un lien très fort avec la maîtrise conceptuelle et notionnelle, hein, des choses. Bien. Conclusion. Travailler par compétences, comment améliorer ses pratiques d'enseignant, c'était la commande initiale. En tant que chercheur, j'ai aucune réponse. La bonne méthode n'existe pas. Et il est vain de tenter de la chercher, de chercher la bonne méthode, mais on a quelques pistes. Hein. Je pense à mes 6 macro-variables liées à l'effet maître. Je pense aux 4 organisateurs des pratiques, 4 grandes dimensions sur lesquelles nous sommes tombés d'accord à Toulouse, là, hein, sur lesquelles nous pensons qu'il y a des choses très importantes qui se jouent dans les classes. En tant que formateur, la réponse est simple. En tant que formateur ou inspecteur, la réponse est simple. Voir les référentiels de compétences. Hein, et ils sont en lien, ces référentiels de compétences, avec les recherches en sciences de l'éducation quand même. Hein. Ces 10 compétences-là ne viennent pas de nulle part. Hein. Bon, donc il y a quand même un certain nombre d'éléments cohérents. J'aurais tendance à conclure que comment améliorer ces pratiques d'enseignement, bien, c'est travailler par compétence, hein, bien sûr, c'est faire en sorte que rendre mes élèves plus acteurs, plus actifs, pour qu'ils puissent maîtriser des tâches complexes les remobiliser dans des contextes différents, hein, si je me mets en accord avec l'équipe de Belgique. Donc ça va tourner autour de ces 4 grandes idées, la tâche, la gestion de la classe, les interactions verbales, à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse simplement aux bons élèves? Hein? Est-ce que lorsque je suis en cours d'anglais, j'ai fait un bon cours si eh bien, mes élèves n'ont pas parlé, quoi, hein? Mais la moitié de la classe, qui est souvent dont font partie les élèves en difficulté, eh bien, n'ont pas parlé. Hein? Donc comment je individualise, comment je gère l'hétérogénéité, la gestion du temps? Et puis l'évaluation formative, ça me paraît être 4 éléments très très importants si j'avais à dire ce sur quoi je m'appuie actuellement. Voilà, et puis une bibliographie, donc là je ne sais pas si c'est très intéressant, je peux la laisser comme ça pendant la discussion. J'étais un peu long, excusez-moi.